Vous écoutez
RMC.
RMC.
Faut être clair, messieurs, hein. Si c'est Ronaldinho qui fait ça fait le tour des télés du monde. Ouais. C'est Damien Perkis.
C'est Perkisinho.
On sait très très bien ce que représente le Real Madrid sur le marché des transferts. Peut-être que le Real Madrid a envie de sauter la banque. Non, c'est pas inédit, mais ça remonte au calanque hein, quand même.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Simon Dutin, avec Oleda Gerchour et avec Damien Perkis, on est ensemble jusqu'à 22h. C'était quoi ce commentaire là, Damien? Souvenir?
C'était un but avec Sochaux, mon retour à Geoffroy Guichard.
Dis-le,
t'as vu, il est humble, Damien.
Non, mais
il est humble, hein. T'as mis un but de 40 mètres.
C'était anecdotique, ouais. Après, il y en a qui disent que je n'avais pas fait exprès, mais il y en a d'autres qui ont dit que j'avais fait exprès.
Et toi, tu dis
et
quoi?
La réalité, c'est quoi? Je la garde pour moi, la vérité. Mais forcément que mon pied ne me ment pas, donc c'était fait exprès.
Damien est avec nous ce soir. La Ligue 2, il y a eu des buts pendant la pause. Allons notamment à... il y a eu un but au Serre ou pas? Non, 2-0 toujours
but
pour Auxerre. But de Caen surtout. On voit ça avec Edgar Grelot.
Oui, 1-0 pour Caen face à Annecy. Le but de d'Ali Abdi. Ça bouge aussi à 3 puisque c'est Pau qui ouvre la marque grâce à Charles Bolli. Et enfin, 3 buts hein, pendant la pause avec l'ouverture du score de QRM face à Amiens. But de Pierret sur le reste des pelouses. 0-0 partout.
Mais toujours 2-0 pour Auxerre face à Laval. 0-0 entre Guingamp et Angers. Bordeaux-Dunkerque, 0-0 également, on ira dans quelques instants. Avis de Walid Acherchour ce soir dans Génération After, qui voudrait faire un mea culpa. Alors certains diront, notamment sur Twitter, tiens, c'est pas le 18e mea culpa de Walid cette saison?
18e, je sais pas, mais oui, il doit en avoir, ouais.
Mais c'est,
mais c'est ça l'honnêteté, non?
Ben oui. Une preuve d'humilité, le reconnaître ses erreurs, c'est très bien.
Le problème, c'est que si on s'en fout.
Oui, le problème, c'est que si on fait des mea culpa tous les 15 jours, après, ça n'a plus, enfin, notre parole n'a plus aucun sens.
Ouais, enfin,
ce que je veux dire.
Si en fait, si on s'enfonce dans nos combats, on va dire oui, t'es malhonnête, etc. Tu veux pas voir la réalité en face. Par contre, quand on fait des mea culpa, on nous dit pourquoi tu fais des mea culpa.
Alors, il concerne Vitinha, ce mea culpa. Jingle Walid.
Ouais. Voilà, on a retrouvé une équipe compétitive. C'est pas extraordinaire. Hein. Fred Antonetti n'invente pas l'eau chaude. Encore une fois.
Oui.
Pourquoi?
C'est l'eau tiède.
Ah, c'est l'eau tiède.
Oui, oui. L'expression, c'est l'eau tiède.
Très bien, bah je note.
Tu la notes. Vas-y, Walid.
Il entre au top 50, celui-là.
Bon, il y est déjà, tu as vu, il y a même un jingle.
Ah, t'as fait mieux. T'as fait mieux, je pense.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
T'as fait mieux.
Ouais. Bon. Non, je voulais parler de Vitinha. Bien évidemment qu'on en a beaucoup parlé cet été. Est-ce qu'il allait prendre le milieu de terrain du Paris Saint-Germain à son compte? Moi, j'avais toujours et j'ai toujours émis des doutes sur le fait que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, par rapport à ce qui se faisait de mieux, notamment en Europe, pouvait me poser pas mal de questions, que ce soit en qualité, voire même en densité, sur les recrutements de Ougarté, sur Warren Zaïre-Emery. Est-ce qu'il allait s'imposer à son jeune âge, et si on n'allait pas le surresponsabiliser dans cette saison-là? Fabien Ruiz, Carlos Soler, celui qui était le plus en avance dans tous ces joueurs-là, c'était bien évidemment Vitinha. Mais j'attendais de voir dans ce rôle de leader en milieu de terrain, et force est de constater que moi, cette année, il m'a bluffé. J'attendais de voir et j'ai vu. J'ai vu une qualité de leader. J'ai vu deux buts très très importants à un partout, à l'aller et au retour, qui ont fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Je trouve que dans son rôle de numéro 6, il y a beaucoup de débats. Numéro 6, numéro 8, je trouve que face au jeu, il joue beaucoup plus vers l'avant. Il a cette capacité à sortir du pressing et d'apporter sans ballon et avec. Ce que je ne trouvais pas exactement au poste de numéro 8, où parfois il était un peu frileux, parfois il jouait un peu de manière latérale. Et moi, je suis totalement conquis. Déjà, c'est un joueur qui, techniquement, quand il est arrivé de Porto, on disait que ça pouvait être le chouchou du Parc des Princes, parce qu'il a quelque chose balle au pied. Mais dans tout ce que ça comporte, être le leader du milieu de terrain du PSG, il m'a totalement bluffé, et je ne le pensais pas à ce niveau-là. Je pensais que même en termes de personnalité, ça pouvait être un joueur qui s'efface dans les gros rendez-vous, qui ne prend pas qui ne pouvait pas répondre au statut qu'il avait. Et ça n'a pas été le cas. Ça a été l'un des meilleurs, notamment contre la Real Sociedad en deuxième mi-temps, quand Luis Enrique l'a changé de place au poste de numéro 8, au poste de numéro 6. Et là, sur la double confrontation, pour moi, il est top 3 du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que Luis Enrique l'a aussi fait beaucoup progresser. Il en a parlé dans ses interviews. Mais voilà, je voulais en parler ce soir. Il y a un devoir d'honnêteté là-dessus. Et globalement, même le milieu de terrain, où j'attendais, et j'attends toujours. Mais Vitinha, franchement, chapeau. Chapeau, et on attend confirmation aussi contre Dortmund. Mais pour l'instant, moi, je suis conquis et je rentre définitivement dans le train.
Damien, es-tu conquis également? Est-ce que tu es surpris également par l'évolution de ce joueur?
Surpris, non, parce que je pense qu'il y a toujours la progression à prendre en compte au fur et à mesure de la saison. Moi, après, je pense que son début de saison, il a été marqué par le gros début de saison de Ugarte, en position de sentinelle, qui avait donné l'unanimité, en fait, à Ugarte pour pouvoir rester à ce poste-là. Et finalement, quand on a vu qu'Ugarte a baissé un peu le pied, il a fallu trouver une solution de rechange. Et pour moi, et c'est là où je rejoins Walid, c'est qu'en position de sentinelle, quand il est face au jeu, il est bien meilleur, avec une visibilité beaucoup plus élargie. Quand on a un poste de relayeur de numéro 8, on va le voir peut-être plus axé sur un côté, à vouloir jouer forcément sur son côté ouvert. Là, il a vraiment tout le champ devant lui pour pouvoir jouer. Et puis, il y a cette prise de responsabilité, être capable d'aller se projeter dans la surface de réparation et pouvoir marquer les buts qu'il a marqués, aussi importants. Voilà, je pense qu'il a pris une place qui est la sienne. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est le leader technique de ce milieu de terrain. C'est celui qui fait vivre le milieu de terrain et qui permet aussi aux autres d'être bons. Même si Zaïre Emery, je pense, a baissé un petit peu le pied, oui. et que Fabian Ruiz redevient un petit peu le Fabian Ruiz de Naples. Voilà, pour moi je trouve qu'il y a quand même une progression chez lui, mais il y a une marche.
C'est mieux.
Je trouve qu'on va un peu plus vers le Fabian Ruiz.
Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au début de saison, parce que Warren Zaïre Emery était incroyable en début de saison, il l'est moins. Même si, attention, il aide bien Vitinha.
Moi, je trouve qu'il lui fait du bien.
Quand il monte, il fait un peu l'escalier, il redescend, il compense.
Ça, c'est logique.
Mais Ugarte était très très fort le premier mois, en tout cas, allez, on va dire un mois et demi, deux mois, avant que la Ligue des Champions nous ouvre les yeux sur ses qualités techniques, notamment à l'extérieur. Sans Ugarte, avec un Warren Zaïre Emery qui est rentré un peu dans le rang, c'est lui qui tire le collectif vers le haut. C'est ça, en fait.
Qui assume le jeu, en fait, même de. Quand on les voit repartir de derrière, souvent, on avait vu toutes les difficultés, notamment à Newcastle, où ils avaient cherché à repartir de derrière, ça avait été nul. Ben là, ils sont capables, avec Vitinha, d'avoir autre chose et de proposer autre chose dans l'élaboration du jeu, et je trouve ça intéressant.
Son match contre le Barça, à l'aller, où il fait un match incroyable. Le match contre Lyon qu'il fait dimanche, et même la deuxième mi-temps contre le Barça, où c'est lui qui met le deuxième but, moi, à ce moment-là, j'ai tout compris. Là, en fait, t'as la palette d'un joueur qui me convient totalement, c'est-à-dire avec, sans ballon, et vraiment, ouais, chapeau.
Simon.
Bon, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. C'est un mec qui fait gagner son équipe, déjà, pour commencer. Le repositionnement a été bénéfique parce qu'il a confirmé ce qu'on pressentait, à savoir que, même si c'est un petit peu péché de dire ça à Paris, on sentait qu'il était un peu verratiesque, notre ami Vitinha. Il a du sang glacé dans les veines. Il y a ce genre de milieu de terrain, tu sais, le temps ralenti lorsqu'il a le ballon dans les pieds. On savait qu'il était très très fort dans les petits espaces, mais dans cette position de sentinelle, très souvent il est confronté au premier pressing adverse, et effectivement il a cette magie pour s'en sortir et pour éclairer le jeu. Parce que, petit dribble dans les petits espaces, derrière le jeu s'ouvre et il la lâche un petit peu plus rapidement, je pense, que Verratti. Il est à la conclusion des actions, ce que faisait pas non plus le hibou. Et il n'y a pas grand-chose à dire. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse, je pense qu'il a quand même besoin de mecs devant lui qui passent le burin sur le milieu de terrain adverse quand même. Je pense que le volume d'un Zaïre Emery lui fait du bien.
Oui, non, bien sûr, mais je dis juste que la dynamique, elle ne plaide pas pour Zaïre Emery, même si, attention, il a quand même un niveau, il a toujours un niveau, ça va être du 5 sur 10, quoi. Parfois un peu 4 quand il est un peu moins bien, mais je dis juste que c'est lui qui tire le collectif vers le haut, et je ne l'imaginais pas aussi bluffant sur ce type de match. Et quand tu fais tout le packaging, c'est-à-dire capacité à jouer vers l'avant, à relancer, quand on sait que c'est très très important aujourd'hui dans le foot de haut niveau de contrer un pressing adverse, et il l'a fait, notamment à plusieurs reprises. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur joueur dans l'effectif dans ce domaine-là, pour essayer de ressortir les ballons. Venez me chercher, les gars, vous inquiétez pas, je vais pouvoir trouver Fabian Ruiz, Dembélé, Hakimi très très rapidement. Et puis derrière, salir le short, plus être décisif, c'est dur de trouver des défauts.
9 buts cette saison déjà.
C'est ça, il a une appétence quand même pour l'offensive, le fait de marquer des buts. Il reste plus qu'un problème à régler, il est capillaire, voilà. Il faut qu'il se trouve
coiffeur
dans la capitale.
Tu nous fais une Daniel, là, c'est quoi le truc?
Pourquoi? C'est un...
Non, mais dis-moi, qu'est-ce qui te gêne dans sa coiffure?
Je sais pas, s'il y a un problème. Il y a quelque chose qui va
pas.
Oui,
mais ça l'empêche pas de jouer au football.
Il faut trouver un style capillaire.
Quand tu veux, toi, il faut qu'il y ait du style.
Oui, il a son truc, non?
Damien, t'es d'accord avec ça ou pas? C'est important. Ça fait le joueur aussi.
Moi, je vais pas parler de cheveux, moi, ici. Moi,
c'est capillaire. Ouais. C'est pour ça que t'as pas posé la question à Walid, non? Mais ça n'a rien à voir. Moi, c'est franchement.
Et en plus, je réponds à cette question, mais
j'étais pas celui qui rigole, c'était pas le plus coquet.
Peut-être avant de sortir sur le terrain, mais pas quand j'étais sur le terrain.
Allez, pause, on prend Chavetier dans un instant. Appelez-nous 32-16 supporters parisiens. Où placez-vous dans la réussite de la saison parisienne, bien sûr? Est-il votre top 1, top 2 parisien cette saison? Vous nous appelez au 32-16 pour en parler. La Ligue 2, est-ce qu'il y a eu des buts, Edgar Grelot?
Pas de nouveaux buts à signaler, mais un carton rouge. D'accord. À Caen, carton rouge côté Annecy pour Romain Pajot pour un tacle complètement raté, carton rouge direct.
Au Serre Laval, Fred Joly, le temps, le score.
Il reste un quart d'heure à jouer dans cette première période et la Josser a fait le break, il mène 2-0. Lomami, le défenseur contre son camp pour Laval, et puis le deuxième but au Serrois signé Aillé, 2-0 pour Auxerre.
Guingamp, Angers, Xavier Grimaud.
Et toujours 0-0, c'est plutôt équilibré avec les meilleures situations malgré tout pour Guingamp. La dernière en date avec un bon débordement de Merguem centre au premier poteau et Victor Lobry qui voit sa frappe qui passe au-dessus des buts de Yaya Fofana. 0-0 entre Guingamp et Angers.
Et Bordeaux-Dunkerque, Nico Paul Orsi.
La demi-heure de jeu 0-0, hein, grosse domination des Bordelais avec Dunkerque qui joue très très bas. Il y a eu plusieurs occasions, mais pas de but pour l'instant. Ils sont maladroits devant les Bordelais à l'image de leur saison. À noter que les banderoles sont sorties, hein, côté supporters. Vous méritez un stade à l'image de votre saison vide. Nous ne soutenons pas un club qui nous abandonne. Grève des supporters ce soir à Bordeaux. Il y a vraiment tout qui part un peu en sucette. 0-0 la demi-heure de jeu.
Et Arsenal mène 1-0 face à Chelsea après 15 minutes de jeu. But de Leandro Trossard. Arsenal leader, hein, virtuellement de Première Ligue avec deux matchs en plus par rapport à City. Troisième.